Je rebondirai, si vous le voulez bien, en partant d'un souvenir lycéen que j'emprunte à mon épouse, qui séjournait en Lettonie dans les années 1990, dans le cadre d'un voyage scolaire, et qui a eu le privilège d'entendre à cette occasion le gendarme de Saint-Tropez parler en russe, puisque le doublage s'y faisait. Rien d'étonnant, la série du gendarme s'est exportée avec succès en Russie, en Espagne, en Pologne, un peu partout finalement, même si les raisons de cette popularité sont assez mystérieuses et je ne suis pas certain que le colloque nous permettra de les éclaircir. Mais cette anecdote montre au moins, et ce sera ma première remarque, que le gendarme est une figure clé de l'imaginaire social. Jean-Noël Luc vient d'en donner des exemples. J'en aurais ajouté d'autres si je savais fredonner. Nadeau, Traîné, Bourville, Brassens. Je n'ai pas ce talent et je répéterai donc simplement ce que disait Flaubert du gendarme. C'est quelque chose, dit-il, d'essentiellement bouffon. Voilà un trait parmi d'autres, vaguement méprisant, mais tellement révélateur, parce qu'on peut dire que la violence de la charge est à la mesure du pouvoir auquel prétend la gendarmerie. Mais on peut également penser, avec d'autres exemples, que la moquerie est une preuve de popularité. Un exemple suffira, et il vous prouvera que les historiens font feu de tout bois. Je pense ici à la série Noddy, connue des petits francophones sous le nom de Oui Oui. Noddy est un personnage de la littérature enfantine qui apparaît, vous le voyez, dans l'Angleterre des années 1950. Et le personnage de Noddy est confronté à un policeman. Dans la version française, publiée dans les années 1960, vous pouvez remarquer que le policeman est devenu un gendarme. Et un gendarme très caractéristique. On reconnaît bien le chapeau très 19e siècle du gendarme de Guignol. C'est bien la preuve que le gendarme tient une place de choix dans l'imaginaire social. Et j'invite tous les chercheurs à prolonger cette enquête et à faire une gigantesque compilation des traductions de Noddy dans l'espace européen et mondial. J'ajouterai que c'est d'autant plus intéressant que ce gendarme disparaît dans les dernières versions de dessins animés, telles que vous les voyez en bas à droite, où c'est de nouveau un policeman qui participe à ce dessin animé. Notons enfin que le gendarme n'est pas toujours ridicule. Laissons Louis de Funès, allons en Italie, à la rencontre de Gina Lollobrigida, qui tombe amoureuse d'un jeune et beau carabinier dans l'un des grands films italiens des années 50, « Pain, amour et fantaisie » de Luigi Comencini. Un film qui présente une image autrement plus valorisante de la gendarmerie. Reste évidemment à savoir comment circulent ces représentations. Les beaux carabiniers ont-ils séduit au-delà des Alpes ? Le gendarme de Saint-Tropez a-t-il changé le regard que les Espagnols portaient sur la Guardia Civile ? Cette question reste ouverte. Mais on essaiera surtout de comprendre ce que ces images nous disent des interactions entre gendarmes et société. Parce qu'il y a peut-être là une clé pour comparer l'intégration sociale des différentes gendarmeries. Pour mener à bien cette enquête, il faudra, et c'est ma seconde remarque, rencontrer l'homme sous l'uniforme. Et savoir d'abord s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. La question se pose depuis que l'institution se féminise, mais elle a également une pertinence pour le XIXe siècle, puisque la virilité, la masculinité du gendarme est un sujet de fierté ou de satire fécond qui renvoie également aux imaginaires sexuels de l'ordre public et à la problématique du genre. Faire l'histoire des gendarmes, c'est aussi s'intéresser à leurs origines. Origines sociales, régionales, ethniques, religieuses. On rentre ici dans une question centrale. Les gendarmes sont-ils à l'image de la société qu'ils surveillent ? La question se pose dans l'Empire napoléonien, étudié par Aurélien Lignereux, dans l'Empire ottoman, dans les empires coloniaux. Elle a également du sens dans les États-nations en constitution. Les gendarmes belges parlent-ils le flamand ? Les carabiniers sont-ils piémontais ? Derrière ces questions, il s'agit aussi de comprendre ce que l'État veut faire de la gendarmerie. Dans la même perspective, il faut étudier les carrières des gendarmes, savoir comment on les nomme, quels sont leurs espoirs, évaluer leur position dans la société, leur position réelle et leur position subjective. Les deux ne se recoupent pas nécessairement. Écoutons ce que dit un père à son fils, apprenti gendarme, dans la Belgique des années 1880. T'es grand, bien fait, t'as fait tes primaires et un peu d'école du soir, y a plus bête que toi chez les gendarmes. Sans compter que je serai fier, tu causeras avec les autorités comme je te cause maintenant, tu seras quelqu'un. Alors, est-ce que cette phrase peut s'appliquer à toutes les expériences gendarmiques ? À notre grand regret, l'histoire sociale des gendarmes est moins développée qu'on ne pourrait l'espérer, et l'un des objectifs de ce colloque est justement de poser un jalon et de susciter de nouvelles recherches sur ces sujets essentiels. Les historiens ont davantage étudié les fonctions des gendarmeries, et ce sera l'objet de mon troisième point. À quoi servent les gendarmes ? Alors, cette question supporte des réponses très variables selon les contextes. Quelques exemples. Dans le Piémont des années 1800, ils luttent contre le brigandage. Dans la Russie du XIXe siècle, ils espionnent les opposants politiques. Ils sont, selon la formule de Jules Michelet, l'homme sinistre, l'œil trouble et louche par où le tsar vous voit de Saint-Pétersbourg. À Bruxelles, en 1899, ils chargent les manifestants. À Messine, en 1908, ils participent au secours du tremblement de terre. Et dans la France des années 1930, on ajoute une nouvelle mission, je cite, « ramener à l'école les galopins qui font l'école buissonnière ». Je n'allongerai pas la liste, elle est déjà suffisamment longue, mais j'en dégagerai simplement trois questions. D'abord, pour revenir sur l'hypothèse formulée par Clive Hemsley, comment la gendarmerie participe-t-elle à la construction de l'État, mais aussi à la construction du national ? Est-elle, ou plus exactement, n'est-elle qu'une force de colonisation des campagnes ? Ce qui nous amène à la seconde question. Comment les populations ont-elles transformé les gendarmeries par leurs demandes, par leurs reproches ? Comment la gendarmerie a-t-elle appris à concilier service de l'État, service du public ? Et enfin, cette dualité, ce statut militaire qui est au cœur de son originalité. Doit-on y voir un signe de souveraineté, une forme d'intimidation ? Dans tous les cas, et c'est l'objet de mon dernier point, il faut rappeler que la gendarmerie est le rouage d'un système policier. Alors cette notion de système policier est un outil que nous explorons dans le cadre d'un chantier interuniversitaire de l'Agence nationale de la recherche, le programme CISPO. Son objectif est de rappeler la pluralité des institutions et des forces qui participent au maintien de l'ordre. La gendarmerie cohabite parfois avec une police civile, une police étatisée, une police municipale, des milices, des gardes nationales, l'armée. La palette des configurations possibles est très riche. Et il s'agit donc de comprendre comment la gendarmerie s'intègre dans ces systèmes policiers. Reste-t-elle à part ? Construit-elle des complémentarités ? Alors il ne s'agit pas de rejouer un nouvel épisode de la guerre des polices, dont Laurent Lopez a bien montré pour la Troisième République qu'il s'agissait largement d'un mythe. Ce que l'on veut comprendre, c'est comment la gendarmerie fait valoir sa spécificité dans le cadre plus global des questions de sécurité. De la sorte, en envisageant le système de sécurité dans son ensemble, il s'agit également de rompre avec les segmentations historiographiques qui isolent artificiellement la police civile d'un côté, la gendarmerie de l'autre, et qui traitent l'une ou l'autre comme un cas particulier, relégué en note de bas de page. En guise d'épilogue, permettez-moi de paraphraser une autre conclusion célèbre, mais sous une forme interrogative. Gendarmes de tous les pays, unissez-vous. Je pose la question. Je ne sais pas si l'on peut parler d'une internationale gendarmique dont la FIEP, la force de gendarmerie européenne, la force de gendarmerie eurasiatique pourraient tenir lieu. C'est un sujet d'actualité, peut-être davantage que d'histoire, mais qui pose en tout cas la question de l'institutionnalisation des liens entre les gendarmeries du monde. On croisera au cours de ce colloque l'histoire de ces conseillers militaires qui vont organiser des gendarmeries. On observera les relais par lesquels circulent les modes d'organisation et les savoir-faire gendarmiques. De là à parler d'une grande fraternité gendarmique, il y a un pas que je ne franchirai pas forcément, parce qu'il faudra aussi, et c'est essentiel, relever toutes les barrières qui enferment les gendarmeries dans leurs cadres nationaux. L'histoire des circulations est aussi souvent celle des incompréhensions, celle des cloisonnements. Et puisque l'on a commencé avec De Funès, permettez-moi de finir avec l'évocation du gendarme à New York, puisque ce film nous donne l'exemple du premier International Congress of Gendarmerie, bien mythique, mais assez étonnant. Je vous laisse en découvrir quelques images évocatrices. Je ne suis pas certain que la rencontre entre les carabiniers italiens et les gendarmes français soit davantage représentative que la farandole qui unit les différents gendarmes du monde de ce qui nous attend dans ce colloque. Nous connaîtrons, je l'espère, moins de péripéties, notamment pour ce qui concerne la traduction, mais il ne sera pas interdit de mêler l'esprit de sérieux au gai savoir. Je vous remercie.